Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode!
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy Fent et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Extraterrien est un podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leur parcours, leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Alizée Agier. Alizée a tout gagné dans la discipline du karaté. Championne du monde à seulement 20 ans, elle a enchaîné les titres avec un parcours studieux. Ultra sportive de nature, et pourtant, adolescente, elle a appris qu'elle était atteinte d'un diabète de type 1. Avant chaque repas, elle doit s'injecter une dose d'insuline, l'hormone qui permet de réguler son taux de sucre. Car en effet, son risque de faire une hyperglycémie est permanent. Mais cela ne l'a jamais arrêté dans sa passion, puisqu'aujourd'hui, aucun trophée ne lui manque, à part celui célèbre des Jeux Olympiques, dont la première apparition sera à Tokyo en 2020. Une chance unique pour tous les karatékas, donc j'espère que vous encouragerez Alizée à se qualifier. Juste avant de commencer, j'ai deux petits messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast monte dans les classements et entre dans la légende. Donc si vous aimez cet épisode, pensez à vous abonner et à donner votre avis sur Apple Podcasts ou iTunes. D'ailleurs, je souhaitais vous faire part de plusieurs commentaires que j'ai reçus cette semaine et qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Le premier, c'est de la part de Bicou, la découverte de disciplines sportives moins médiatisées qui cachent de vrais talents et de vrais champions. Des extraterriens, comme nous les présente ce podcast. Juste merci pour cette nouvelle vision du sport. Bah écoute, merci à toi Bicou pour ce commentaire. Et j'en ai eu un deuxième. Je viens d'écouter l'épisode avec Sébastien. C'était top. On voit qu'il vit sa passion et on le comprend. Tu devrais mettre en place des hors-séries plus souvent avec des amateurs que tu interviews et des épisodes plus classiques avec des pros. Continue comme ça, c'est top. Merci beaucoup à Tagatava pour ce beau commentaire. Et d'ailleurs, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me le dire en laissant vous-même un avis. Et en parlant de ça, chaque semaine, je lirai plusieurs commentaires afin de vous faire participer dans ce podcast. Enfin, je vous rappelle que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast. Et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Allez, trêve de bavardage et je laisse place à mon invité du jour, Alizée Agier. Salut Alizée.
Salut.
Merci beaucoup de me recevoir chez toi.
Écoute, avec plaisir.
Ouais, c'est toujours cool de rencontrer les sportifs un petit peu dans leur univers, dans leur écosystème. Et en plus, comme je te le disais, je suis vraiment ravi de faire cette interview. Parce que tu es la première sportive de combat, on dit, première combattante.
Oui, on peut dire première combattante, oui. Ouais. Ou karatéka.
Ouais, première karatéka aussi. Et moi, j'ai une approche particulière avec les sports de combat parce que je suis très contre la violence, je suis quelqu'un de très calme, j'aime pas du tout me battre, donc j'ai vraiment beaucoup de questions. Parfois un peu naïf, tu verras, à te poser. Mais avant d'aborder tout ça, le combat, le karaté et la préparation mentale et tout ça, je voulais te demander quel est ton premier souvenir de sport.
Alors, mon premier souvenir de sport, je dirais que c'est quand j'ai commencé à faire du baby ski, donc du ski nautique, mais pour les tout petits. Et donc, je devais avoir 3-4 ans, pas plus. Et donc, il y a un lac à côté de chez moi, à côté de ma ville natale, Semur-en-Auxois. Et donc, on m'a mis sur les skis à ce moment-là. Donc, je dirais que c'est le premier souvenir qui me vient.
Ah ouais, c'est marrant. Et t'avais quel âge, du coup ?
Je devais avoir 3-4 ans, pas plus.
Ah ouais, donc tu savais à peine marcher et déjà sur des skis, ouais.
C'est ça, oui.
c'est marrant parce que j'ai vu qu'après, t'avais fait énormément de sport. Qu'est-ce qui fait que tes parents t'ont mis sur des skis rapidement ?
Alors, eux ont déjà fait du ski nautique et j'ai un grand frère qu'on faisait aussi, donc c'est vrai que ça a pas mal poussé, il a fait quelques sports également, et donc ça a paru normal que je me mette sur les skis aussi à mon tour, et après j'ai pu tester d'autres sports, donc c'est génial d'avoir pu toucher à tout avant de voir quel sport me correspondait le mieux.
Ok, c'est un peu ce qu'on voit dans la presse sur toi, c'est que t'as essayé plein de sports. Tu peux nous raconter un petit peu les différents passages que tu as eus durant ta jeunesse et comment... C'est peut-être tes parents aussi qui t'ont inspiré vers ça, j'imagine ?
Oui, mes parents sont sportifs et mon frère également. Donc c'est vrai que toute la famille est sportive. Déjà, dès toute petite, j'avais cette image de faire du sport régulièrement. Donc j'ai commencé par le ski nautique, donc très jeune. J'ai fait également de la gymnastique pendant, 6-7 ans. Du ski nautique, je le pratique toujours. J'en ai fait en compétition.
Ok.
Aussi, au niveau régional. Après, j'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans. Et on va dire que c'est le karaté qui est resté, parce qu'au final, quand on grandit, qu'on commence à faire beaucoup de sport, c'est vrai qu'il faut commencer à choisir, parce que ça fait trop dans la semaine. C'est le karaté qui est resté. Et sinon, les étés, j'ai déjà fait un peu de cheval aussi, un peu d'équitation. C'était sympa, je voulais tester. C'était des super moments et je pense que ça m'a fait grandir et ça a été bénéfique aussi pour le karaté. Hein. Je vois la gymnastique, j'ai gagné en souplesse dès le plus jeune âge.
Ouais.
Donc je pense que ça m'a aidé aussi pour ma technique dans le karaté. Donc tout est complémentaire.
Ouais. En plus, tu dis que tu as fait pas mal de compétitions. Après coup, ça t'a servi aussi de faire de la compétition jeune pour développer un petit peu... des aptitudes au combat ou...
C'est vrai que c'est bien de se mettre dans le bain assez jeune, puisque même si on redoute toujours, on a toujours cette petite appréhension, ce petit point de stress dans le ventre quand on va en compétition, mais c'est quelque chose qui devient familier au final, et on sait que on va en compétition, on va avoir du stress, il faut l'appréhender, donc dès le plus jeune âge. Et au-delà de la compétition en soi, c'est bien de voir ce qu'on vaut également en compétition, de se confronter aux autres. Et ça permet de se voir différemment. Et bien sûr, quand on a la médaille, on est content. Surtout quand...
Ouais.
Déjà, quand on est jeune, c'est génial. N'importe quelle couleur de médaille, on est heureux. On est heureux comme tout.
Mais toi, c'était qu'est-ce qui te faisait le plus plaisir, toi, dans la compétition, justement ?
C'est vraiment, quand je suis en compétition, je ne pense plus au reste. Donc déjà, à l'entraînement, ça m'arrive, mais en compétition, je suis dans mon monde. Et le temps d'une journée, je suis dans ma bulle, dans ma petite atmosphère, et c'est quelque chose qui me plaît. Et toute cette atmosphère, que ce soit le public, que ce soit la compétition, faire le sport, pratiquer devant du monde, c'est un tout qui fait que j'aime la compétition.
Ouais. Ouais, c'est vraiment le jour J que tu prends vraiment le plus de plaisir.
Le jour J que je prends du plaisir et que c'est à ce moment-là où j'ai, on va dire, le plus confiance en moi, on va dire, aussi.
D'accord.
Parce que ouais, je suis quelqu'un assez timide, réservé dans la vie de tous les jours. Bon, sauf quand on me connaît bien au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me pose aucune question sur moi-même, en fait. Et juste, j'y vais, banzai.
Ok. Mais c'est marrant parce que tu vois, il y a des gens... alors, j'imagine peut-être pas des sportifs de haut niveau, mais il y a des gens que ça paralyse un petit peu la compétition. Toi, tu sais un petit peu ce qui se passe un peu pour que tu te sentes encore plus en confiance et...
Ben, par exemple, pour le karaté, je sais que voilà, dès que je mets mon kimono, je mets ma petite armure et je pars au combat et ouais. Je me sens bien, en fait. C'est vraiment oublier tout le reste et passer dans une autre phase. Psychologiquement, voilà, je me déconnecte de tout. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça marche bien derrière.
Ouais. Bon, finalement, j'aurais dû ramener un kimono, on serait mis en kimono. Et...
ouais. Non, ça va aller aussi là.
C'est vrai. Ouais. Ok, et du coup, ouais, karaté, à peu près à quel âge
ça est... À 5 ans, j'ai commencé, ouais.
Ah ouais, donc, donc ski nautique, la gymnastique, déjà tous les trois combinés, quoi.
Voilà, après le ski nautique, du coup, c'est vraiment en période estivale. Ouais. Et là, j'en fais toujours en loisir maintenant, mais c'est vrai que du coup, c'était surtout karaté, gymnastique, en semaine, dans la saison, quoi, en même ouais. temps. Donc c'est vrai que ouais, ça faisait beaucoup. Et là, à la rentrée, ça va faire 20 ans que je fais du karaté, du coup.
Ouais, mais c'est incroyable. Ouais. C'est sûr que quand on regarde comme ça, tu te dis, ouh, ça fait longtemps. Ouais.
Oui, ça passe vite, hein, au final.
J'imagine. Et tu te souviens de tes premiers combats en karaté ? T'en as quel souvenir ?
Alors, je me rappelle d'une compétition.
Est-ce que t'étais déjà parmi les premières
Ben, écoute, je faisais quand même quelques résultats. Que ce soit au niveau départemental ou régional. C'est vrai que je me rappelle d'une compétition, alors je ne sais plus trop l'âge que j'avais, mais je devais être en pupille. Donc en fait, le karaté, on marque des points au-dessus ouais. de la ceinture, en poing et en jambe. Et en fait, dès qu'il y a 8 points d'écart, le combat s'arrête, c'est gagné. Donc il y a un temps, c'est 3 minutes. Ou alors, s'il y a 8 points d'écart, c'est d'accord, gagné. Ouais. Et il y a une compétition, j'ai gagné 8-0, 8-0, 8-0, 11 secondes. Et la finale, j'avais gagné 22-14. Donc ça, c'était un score énorme. Donc il y a eu des techniques qui sont parties dans tous les sens. Mais du coup, je me rappelle de cette compétition-là. Et entre les combats, j'allais voir mon père et je lui disais « Ça va là, c'est bien ?» Et du coup, t'as là un peu « Bah oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Tu gagnes 8-0 à tous les taux. Oui, tout va bien. » Donc c'est rigolo d'y repenser. On voit aussi l'insouciance quand on est jeune
ouais.
dans la compétition. Voilà.
Ouais, donc déjà petite, tu raflais tout et t'engrangeais les points hyper facilement, c'est marrant quoi. Parce que j'ai vu après dans ton parcours que t'as été hyper vite dans le haut niveau. Tu l'as senti toi en tant qu'enfant un peu ce passage à l'adolescence où tu, finalement ça devient presque professionnel. Bon, on va en reparler un peu après du fait que ça reste un sport amateur. Mais voilà, que tout se professionnalise, que tout se devient plus sérieux, que comment est-ce que tu l'as vécu toi un petit peu cette...
Je dirais que tout s'est fait un peu au fur et à mesure, puisque je faisais des résultats au niveau régional, je me suis qualifiée pour les France, j'ai fait des résultats. Et ensuite, avec la Ligue de Bourgogne, on allait faire beaucoup de compétitions à l'étranger. Donc déjà, à ce moment-là, on se dit, tiens, on découvre l'international. Et grâce à cette découverte et ces résultats que j'ai faits, j'ai intégré le Pôle France de Talence. Ce qui fait que là, j'ai commencé à me dire « Ah oui, c'est vrai que ça peut être sérieux. » Je ne pensais pas que je pouvais y prétendre déjà. Et je ne savais pas tant que ça existait, l'équipe de France ou autre. Donc, je découvrais un peu le tout en même temps. Donc, je pense que c'est déjà à ce moment-là que j'ai mis le pied dedans. Et après, les premières sélections équipe de France à la suite. Et on se prend vite au jeu. Hein, après.
Ouais. Mais c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à te dire « Allez, ok, pourquoi pas je sais pas, être championne de France, pourquoi pas aller chercher des titres ?»
Du coup, c'est plutôt après ma première sélection en équipe de France. Donc, c'était junior à l'époque. Et c'était en 2011. Et à ce moment-là, je me suis dit, t'es en équipe de France. Pour moi, c'était quelque chose c'était des personnes sur une autre planète qui pouvaient être en équipe de France et que ça m'arrive à moi. J'étais assez surprise et j'étais très, très contente. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, t'as quand même un bon niveau, tu peux faire des résultats. Et j'avais fait deuxième, donc c'est championnat du monde junior. J'avais fait vice-championne du monde sur mon premier déplacement en équipe de France. Donc je me suis dit aussi, ça me plaisait, l'atmosphère. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas.
Ok.
Et pourquoi pas moi?
Bah ouais, génial, ouais. Et parce qu'en plus, bah j'ai, en regardant un petit peu les résultats sur karaté, j'ai l'impression qu'il y a une super génération de filles de ton âge qui raflent toutes les médailles, qui gagnent tout. Vous vous êtes rencontrés jeunes, du coup, et vous êtes tirés vers le haut assez jeunes.
Alors c'est vrai qu'on est une belle équipe de France qui a des bons résultats. Et c'est vrai que j'en ai connu déjà certains quand je suis rentrée à Talence. Et ouais. Au fur et à mesure, on se retrouve souvent sur les compétitions. Ensuite, je suis passée au Pôle France de Montpellier. Donc là-bas, j'en ai retrouvé aussi. Et maintenant que je suis sur Paris, voilà, c'est une deuxième famille. On les voit plus que notre propre famille. Donc c'est vrai qu'on se tire tous vers le haut. Et de toute façon, on a besoin des uns des autres. Ouais. Parce que le karaté, même si c'est un sport individuel, on combat contre quelqu'un, donc forcément on a besoin de quelqu'un en face de nous pour s'entraîner, pour combattre en compétition. Donc c'est individuel, mais pas tant que ça. Et il y a aussi des épreuves par équipe, mais on a besoin des uns des autres en tout cas.
Ok, ouais, d'accord. Donc, et vous le sentiez déjà à l'époque, où on vous le disait, que c'était un peu une génération, on va dire dans le foot, on dirait une génération dorée là, c'est pas le même contexte, mais on vous le disait déjà un peu à l'époque qu'il y avait des super résultats ou.
On voyait qu'il y avait des bons résultats, mais après on ne disait pas, voilà, vous êtes une génération où il y a des bons résultats, etc. Ouais. Parce que la France a quand même été toujours une nation forte.
Ouais.
Et c'est vrai qu'ils sont exigeants, ils attendent des résultats, donc nous, à nous de faire notre mieux pour avoir des résultats derrière.
Ok. Et c'est quoi les autres nations fortes, du coup, dans le karaté un petit peu?
Alors, on a la Turquie, l'Iran, chez les masculins, chez les féminines, qui se développent aussi pas mal. L'Italie, en fait. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, vu qu'on est devenu discipline olympique, on a remarqué qu'il n'y a plus de décalage entre des nations.
D'accord.
Il
n'y
a plus de petits pays, on va dire. Ouais. Voilà, il faut prendre chaque personne comme si c'était un champion du monde, on va dire. Il faut se méfier de tout le monde. Tout le monde a progressé, mais principalement après aussi le Japon.
Ouais.
Qui est dans, on va dire, dans le top 3,
okay.
Des nations fortes.
Ok, génial. Donc ouais, j'imagine que les compétitions à l'international, ça arrive assez vite. J'en parlais justement avec Hélène qui nous a mis en relation. Elle, ça l'a beaucoup marqué dans l'enfance, j'ai l'impression, les compétitions à l'international, notamment de découvrir d'autres cultures, de rencontrer d'autres types de jeux et tout. Toi, t'en gardes quel souvenir de ce début des voyages
C'est vrai que c'est que des bonnes expériences où on rigole beaucoup, on découvre le monde, on est tous ensemble à découvrir les pays, la culture, donc c'est génial à chaque fois. Et je pense que ça nous permet d'évoluer, de grandir.
Ouais.
Et c'est vrai que sur les compétitions internationales, on voit les différents, on va dire, styles de karaté. On voit les Japonais, ils sont très bas sur leur position. On en voit certains qui ont plus tendance à faire beaucoup de techniques de jambes. Donc c'est vrai qu'on, là, on remarque que oui, il y a d'autres écoles, je dirais, entre guillemets, de karaté et d'autres façons de faire. Et donc, c'est bien aussi de pouvoir s'y confronter pour évoluer nous-mêmes aussi, de s'en inspirer aussi, pourquoi pas.
Ouais. C'est quoi les styles de jeu, toi, qui t'ont posé le plus de problèmes ou...
Ah, si mes adversaires m'écoutent...
on va poser la question dans le sens inverse. On va dire, c'est quoi le style de jeu dont tu t'es le plus inspiré pour compléter un petit peu
tes... Oui, en fait, j'aime bien le style japonais.
Ouais.
Mais après, je dirais que j'aime bien être imprévisible. Donc, j'ai remarqué que, en fait, là où je suis performante et là où les autres aussi performent, c'est quand on s'attend pas à ce qui va se passer. Je vais faire un enchaînement et d'un seul coup, il y a un coup de pied qui va sortir, on sait pas d'où et ça va passer. Et je pense que c'est ce qui fait un peu mon point fort, on va dire.
Ok. Mais c'est marrant parce que ouais, j'ai regardé beaucoup de vidéos de combats justement et. Je suis impressionné par la vitesse des coups, quoi. Ça va à 100 à l'heure. Des fois, t'as pas le temps de réaliser ce qui se passe. Il y a déjà eu 5 points de marqué dans un sens comme dans l'autre. Comment est-ce que tu travailles d'ailleurs cette vitesse, cette explosivité à l'entraînement, ça, comment est-ce que tu fais pour la travailler?
Oui, alors à l'entraînement, déjà, il faut savoir qu'on est suivi sur de la musculation, sur du cardio. Donc déjà, à ce moment-là, c'est adapté. Plus on est loin de la compétition, plus on va pouvoir faire du lourd et plus on se rapproche, plus ça va être explosif sur des poids légers. Et concernant l'entraînement, ça va être à peu près pareil. Plus on est loin de l'objectif, plus les entraînements vont être durs, intenses. Et on va pas forcément chercher à aller trop vite, mais on va faire de la répétition, beaucoup, 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 déjà pour que ce soit ancré.
Okay.
Et plus on va se rapprocher de la compétition, plus les entraînements vont se raccourcir. Et les temps d'exercice vont se raccourcir également pour là chercher la vitesse, la fluidité et se faire plaisir.
D'accord, ok, ouais, je
vois.
Parce
que c'est vrai que les moments où c'est beaucoup de répétitions, c'est plus dur, c'est pas forcément la meilleure partie, mais on sait que dès qu'on approche des compétitions...
Ouais, tu gagnes en...
Tu gagnes en vitesse, en fluidité, et là, ça ressort comme si c'était jamais parti.
Ok, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de préparation physique, ouais, et c'est à peu près quoi le volume d'entraînement que vous faites, et même au niveau du cœur, quoi. Enfin, c'est des combats très courts, mais c'est hyper intense.
Voilà, en fait, c'est court, mais intensif, parce que c'est des combats de 3 minutes, chez les masculins, chez les féminines. Et en fait, on enchaîne les combats. On peut en faire jusqu'à 5-6 dans la journée. Et sachant que dès que la catégorie a commencé, il faut à peu près une heure et demie pour que la catégorie se termine. Donc ouais. En gros, en une heure et demie, on fait 5-6 combats.
Ah ouais.
Donc c'est vrai que 3 minutes, ça peut être court comme ça peut être long. Ça dépend de la tournure du combat aussi.
Ouais.
Mais après, c'est vrai que sur les entraînements, la semaine, on s'entraîne tous les jours, une à deux fois par jour.
Ouais.
On a musculation, entraînement collectif, cardio, travail d'appui. Et aussi, on peut rajouter des entraînements personnalisés, donc que l'athlète et le coach, pour travailler ce qu'on veut peaufiner, les exercices qu'on n'a pas forcément fait dans la semaine en collectif. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment personnalisé.
Ok, d'accord. Ouais. Mais en parlant de coach, en regardant rapidement sur tes réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de photos que tu as avec ton coach, où on voit qu'il te galvanise et il t'encourage beaucoup. C'est quoi la relation que tu as avec lui ? Enfin, c'est quelque chose qui est important pour toi de se faire encourager par son coach ?
Oui, je pense que c'est important aussi que le coach nous connaisse et sache comment on réagit, parce que d'un athlète à un autre, ça peut être du tout au tout. Hein.
Ouais, ouais.
On n'est pas tous pareils, mais bah, du coup, Ludovic Cacheux, donc, mon coach actuel en équipe de France, m'a coaché déjà en 2011 sur ma première sélection.
D'accord, donc il te suit depuis...
Donc il me suit depuis 2011, et à l'époque où j'étais au Krebs de Bordeaux, il était un des entraîneurs qui était présent, donc je l'avais au quotidien. Et maintenant, il nous suit toujours en tant que coach senior. Parce qu'il était avant coach jeune, vu que moi, ouais, j'étais chez les jeunes, et maintenant, il est coach senior. Donc, il a fait la transition en même temps que moi.
Ok, ouais. Et du coup, c'est quoi un peu la relation que tu as avec lui, ou qu'est-ce que tu attends de lui au quotidien
Je sais qu'il peut me recadrer quand ça va pas. Et il sait utiliser les bons mots, en fait, pour vraiment que je reprenne confiance aussi, parce qu'il y a des moments assez durs où je me pose beaucoup de questions, et je sais que je peux compter sur lui, je reviens vers lui, on va discuter pendant 30 minutes, une heure, et après je vais ressortir, je vais faire un entraînement, ouais, un entraînement énorme. Donc vraiment, il me remet confiance, et sur les compétitions, je dirais que je suis un peu comme une PlayStation, en fait, il va me dire des indications, et hop, j'ai confiance, moi j'y vais, je fais, et ça marche, en fait.
C'est vrai.
Ouais, c'est complémentaire, en fait, voilà.
Donc c'est lui qui s'occupe un peu de la stratégie, de la tactique, et où...
Même si je connais mes adversaires, c'est vrai qu'il fait encore aussi beaucoup d'analyse vidéo, et en gros, chaque athlète que je peux rencontrer, on connaît son profil, de toute façon, ouais.
Ouais, d'accord, il n'y a plus de surprise.
Que ce soit lui et moi, après je sais qu'il me fait un rappel avant chaque combat du profil de l'athlète, et puis après c'est parti.
Ok, génial. Mais, et d'ailleurs, en parlant de... On a parlé un petit peu de compétition, tu as dit que tu étais dans ta bulle et tout. Tu as des petits gris-gris, des petites mimiques un peu qui... Durant ta journée, si on se plonge avec toi une journée de compétition...
Oui. Alors du coup, ça commence pas uniquement le jour de la compète, mais avant le départ même.
Mmh. Ouais.
Je sais que j'appelle toujours mon père pour vérifier que j'ai tout dans mon sac, en fait. Okay. Je sais que je n'oublie rien, mais juste je l'appelle et il sait que c'est pour ça. Je dis voilà, j'ai mes protèges, j'ai le kimono, j'ai tout. Il me dit ok, c'est bon. Et après, voilà, on raccroche, rien de plus. Mais voilà, ça fait déjà partie de la continuité, de ce qui va se passer derrière, de me mettre dans la compétition, de me projeter. Et après, sinon, la veille de la compétition, il y a les tableaux qui sortent. Donc, je regarde contre qui je vais tomber au premier tour. Et moi, après, je prends le temps tranquillement dans mon lit. Je m'imagine en train de leur mettre des techniques. Voilà, essayer de prendre confiance au maximum.
OK.
Même si après, ça passe pas toujours. Hein, mais vraiment, pour me détendre. Et après, le jour de la compétition, c'est vraiment, j'écoute ma musique avant de m'échauffer, pendant l'échauffement, et après je suis dans ma bulle jusqu'au bout, quoi.
Ouais. Et du coup, tu parles à des gens dans ta bulle, ou tu...
Non, je parle pas, ouais, je suis dans ma bulle, je suis fermée, sauf avec mon coach, mais sinon non, je parle pas, je fais mon protocole d'échauffement, et après c'est parti.
Ok, d'accord. Mais c'est hyper intéressant, parce que là t'as évoqué le fait que tu t'imaginais ton combat et combattre du coup en face de tes adversaires. Ça te met déjà un petit peu dans l'état d'esprit et c'est quelque chose, je trouve, qui revient très souvent, la visualisation dans plein de sports. Là, récemment, j'ai vu avec Stéphanie Jiquel, elle c'est une des premières femmes à avoir traversé l'Antarctique à pied. Et du coup, on a pu discuter et elle a passé plusieurs mois en fait à imaginer ce qui allait lui arriver en Antarctique parce que voilà. Et du coup, je suis hyper curieux de savoir vraiment à quoi tu penses, quoi. Tu récites tes techniques, tu t'inventes le combat.
On peut dire que j'invente un peu le combat. Bon, bien sûr, à mon avantage. Hein.
Toujours, ouais.
Où je mets des techniques assez extraordinaires, des coups de pied, même des balayages, parce qu'on peut balayer au karaté. Donc, c'est vraiment prendre confiance, faire plaisir. Même des fois, je me fais rire toute seule parce que je me dis, mais je sais même pas si tu mettras ça, mais au moins, voilà, prendre confiance. Et au-delà d'imaginer le combat, j'essaye d'imaginer la salle. Généralement, on a pu aller se peser à la salle, donc on a vu comment ça se déroule. Donc je repense à la salle pour vraiment me familiariser avec tout cet environnement pour que le jour J, j'arrive et j'ai déjà pris mes marques et je sois comme à la maison.
Ouais, donc tu viens, t'observes un petit peu et t'essayes de réinventer la scène un petit peu après. Et t'imagines aussi des fois des combats qui vont être très durs, où tu vas avoir du mal à gagner ou qui vont être très serrés.
On va dire que quand je regarde du coup le tableau, s'il y a des adversaires que je sais contre qui ça va être plus compliqué ou ça va être dur ou ça va être serré, j'imagine pas le combat serré en fait. Je préfère quand même prendre confiance sur ça, et en plus c'est la veille, donc faire une bonne nuit, donc je vais pas commencer à me stresser dès la veille. Mais
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mais au moins, je me mets déjà dans l'ambiance du combat.
Ok, d'accord, ouais. Mais je suis hyper curieux après dans l'ambiance du combat, parce que là je te vois, t'es super souriante, t'as plein d'énergie et tout. Et bah, effectivement, quand on regarde des sports de combat, on devient une deuxième personne. Toi, à quoi tu penses du coup sur le tatami ?
C'est vrai que mes amis m'ont déjà dit, mais on ne te reconnaît pas quand tu arrives sur le tatami, parce que mon visage change et tout change, mon attitude aussi. Mais c'est vrai, à quoi je pense avant d'aller sur le tatami ? Bah justement, pas grand-chose. J'essaie de faire le vide. Et donc, juste avant de rentrer dans le combat, je sais que j'ai un mot-clé que me rappelle aussi mon coach. C'est, là, tu bascules. C'est-à-dire que là, je passe dans le mode Terminator et on y va, banzai, on pose le cerveau. On sait ouais. Ce qu'on a à faire, mais on pose le cerveau. Donc, il me dit souvent être détendu à l'intérieur, mais tendu vers l'objectif. Voilà, donc c'est vraiment rester concentré sur ce que j'ai à faire. Donc, au final, je pense plus à rien. Au point même que pendant le combat, j'entends que mon coach. Quoi. Je vais pas entendre ce qui se passe dans la salle autour.
Okay.
Et ça montre que je suis vraiment bien dans la compétition.
Ok. Et du coup, le mot-clé, c'est bascule, c'est ça ?
Voilà, là, elle me dit tu bascules et je sais que c'est parti.
Ok, mm-hmm. On fera attention du coup sur ton prochain combat. On va pas le dire trop souvent aujourd'hui. Mm-hmm. mais c'est marrant du coup ce petit déclencheur un peu, ce petit déclic, tu vois, je m'attendais pas du tout.
Oui, mais en fait c'est des choses qui sont venues au fur et à mesure avec. Sur mes premières compétitions internationales en équipe de France, je me disais pas ça, hein, j'y allais.
Ouais.
Et bon, il me drivait un peu plus, hein, mon coach, parce que c'était tout nouveau pour moi. Donc là j'ai un peu plus de liberté et je sais ce que je dois faire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je regarde quand ça a fonctionné. Je me dis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que ça a marché. Donc, j'ai repris ces éléments-là. Et bien sûr, quand ça ne va pas, bah, pourquoi ça n'a pas marché ? Qu'est-ce que je peux mettre en place derrière pour que ça aille ?
Donc, finalement, ton coach, il t'aide beaucoup aussi sur la partie préparation mentale.
Oui.
C'est pas que...
Non, voilà, je pense que c'est un tout et que c'est bénéfique pour tout le monde dans tous les cas.
Ouais, ok. Mais c'est assez rare de le voir des fois chez la même personne. Il y a des gens qui font voir un autre
sport. Justement, je vais voir bientôt, je prends contact avec une préparatrice mentale.
Ok.
Parce que c'est vrai que j'ai des bons résultats sur la saison, mais de temps en temps, d'une compétition à une autre, bah, en fait, je vais gagner une compétition et la compétition d'après, je peux perdre au premier ou deuxième tour. Et on ne comprend pas ce qui se passe entre temps. Donc, j'aimerais bien me mobiliser entre chaque compétition, d'autant plus que cette année, il y en a beaucoup à la suite, en fait, beaucoup qui se suivent avec 3 semaines d'écart à peine. Donc, il faut vite, au final, se remettre dans le bain.
Ouais.
Et c'est ce petit moment qu'il faut travailler, je pense, pour être encore plus. Comment dire, avoir des résultats souvent. Quoi.
Ok. Mm. Et après, là, du coup, j'ai une petite question qui me vient. Alors, c'est un petit peu personnel, mais moi, quand je faisais du tennis, je t'ai dit, voilà, j'ai fait beaucoup de tennis jeune. J'avais une relation avec mon adversaire qui était très particulière. Parce que j'avais tellement envie de gagner que j'étais prêt à tout. Et en fait, j'avais du mal à être le tueur, tu vois. Mmh. J'avais du mal à être trop agressif. Toi, ton adversaire, tu la vois comment?
Oui.
C'est quoi un peu l'ambiance aussi qui est entre les...
Bah, en fait, c'est être féroce, mais au final, de toute façon, c'est un combat de rapidité. Donc, ça sert à rien de s'énerver.
Ouais.
Je suis quelqu'un qui reste plutôt calme par rapport à ce qui peut se passer dans le combat. Tandis que, bah, que certains peuvent vite vriller ou mal réagir. Mais c'est vrai que je reste plutôt calme et je reste concentrée sur ce que je dois faire. Donc, quand j'ai l'adversaire en face de moi, je me dis rien en fait, de spécial dans ma tête, mais juste je la regarde droit dans les yeux et c'est pas moi qui vais lâcher le regard. Quoi.
Ok, d'accord. Donc, il y a une petite guerre de
regards.
Oui,
voilà. Donc, je sais que si elle regarde sur le côté, je me dis voilà, la première bataille est gagnée. Après, bon, sur le combat, tout peut se passer, hein, mais je sais que voilà, j'aime bien regarder droit dans les yeux et c'est pas moi qui vais détourner le regard. Quoi.
Ok, bon, c'est un bon petit conseil pour ceux qui pratiquent des sports de combat. En tout cas, c'est vrai que le jeu de regard, on en parle souvent dans la boxe, sur la pesée, mais j'imagine que
oui,
vous, c'est un peu pareil.
Voilà, bon, on le retrouve juste avant de combattre parce que c'est vrai qu'on est face à face avant que le combat commence. Et sur la pesée, on n'est pas tous en même temps, pas comme sur la boxe où on est face à face. Là, c'est vraiment, on va tous se peser à la suite, pas forcément les mêmes catégories en même temps. Donc,
ouais.
Du coup, on ne se croise pas toujours.
Ok, ouais.
Avant. Et c'est vrai que de toute façon, quand on se croise en dehors de la compétition, je dirais, enfin, en dehors du tatami, ben, on n'est pas à faire la guerre de regard ou autre, c'est une toute autre atmosphère. Ouais. Mais voilà, dès qu'on est sur le tatami, on sait que là, c'est pour la compétition,
ouais,
c'est
bon,
pour gagner. Donc voilà, c'est bien parce qu'il y a la part des choses qui est faite aussi.
Ouais, ok. Et tu parlais un petit peu de l'ambiance entre les karatékas, ça ressemble, c'est plutôt bon enfant, ça reste professionnel et courtois ou même il y a beaucoup d'échanges, tu vois. Je sais que dans le tennis, c'était très très, on va dire, différent d'une personne à une autre. Il y avait des joueurs sur le circuit avec qui on s'entendait super bien, d'autres qui c'était la guerre déclarée, mmh. Et on n'osait même pas se regarder. Dans le karaté, ça ressemble à quoi?
Bah écoute, c'est vrai que là, dans notre génération, on s'entend tous bien. Dès qu'on a la possibilité d'aller faire des activités, d'aller au cinéma, on le fait tous ensemble. Donc vraiment, voilà, il y a une bonne entente, on rigole bien et je pense qu'on a besoin de ça aussi parce que c'est pas toujours facile le sport de haut niveau. Donc si entre nous on se fait la guerre, on va pas y arriver. Hein.
Ouais, c'est clair.
Donc on s'entend tous bien, heureusement. J'espère que ça va continuer, il y a pas de raison de toute façon. Et non, c'est une bonne ambiance.
Ok, ouais, ok. Bon, bah c'est cool, moi ça me fait toujours rigoler de comparer un petit peu. Et du coup, là, si on revient un petit peu sur ton palmarès, t'as été championne du monde très jeune. Déjà, du coup, c'est en 2014, c'est ça?
C'est ça, oui, en 2014.
À Brême. Derrière, tu as gagné un peu tout. Bon, c'est pour résumer de manière assez simple. Je crois que tu es 5 fois championne de France.
6 même.
6 maintenant
année, ouais.
Ah, 6e. Ah, ok, bah désolé.
Pas de soucis.
Tu feras attention, ta page Wikipédia n'est pas à jour.
C'est vrai. D'accord, j'irai voir ça alors.
Mais ouais, du coup, et tu as été aussi championne d'Europe cette année. C'était un titre qui te manquait, que tu n'avais pas réussi à avoir avant, il me semble.
C'est vrai. Chez les seniors, c'est le titre qui me manquait. Parce que bon, j'avais été championne d'Europe chez les espoirs, mais voilà, la catégorie reine, c'est les seniors. Hein.
Ouais.
Et ce qui parle vraiment, c'est les résultats en seniors. Donc c'est vrai que j'ai gagné les mondes très jeunes. Derrière, je gagne par équipe en 2016 aussi, donc ouais. Très beau moment. Et donc au championnat d'Europe, bah, j'avais fait deuxième une année. Et sinon, je faisais des résultats par équipe. On a fait 2 fois troisième. Mais c'est vrai que la première place au niveau européen me manquait. Et avec pas mal de sélections sur des championnats d'Europe, je me disais, mais qu'est-ce qui me manque sur un championnat européen pour aller chercher l'or, quoi. Et cette année, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Et pareil, j'ai posé le cerveau et c'était parti. C'était un beau championnat.
Ouais, c'est un de tes plus beaux souvenirs d'ailleurs de compétition ou...
Ah, c'est dur d'en choisir un, mais oui, ça en fait partie, ça c'est sûr. Ouais. Parce que la préparation a été difficile, il y a eu des moments difficiles avant la compétition également. Donc c'est vrai que quand j'ai gagné, je me suis dit voilà, ça c'est fait et c'est pour toi et on ne t'enlèvera pas.
Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, là tu parles de préparation un petit peu difficile, il y a eu des petits passages...
Oui, des passages compliqués aussi, on se pose beaucoup de questions, que ce soit personnellement ou alors sur des compétitions où on n'a pas forcément performé. Okay. Donc il faut se remettre en question et l'important c'est d'être bien entouré, et j'ai la chance d'être bien entouré, que ce soit mes parents et mes proches. Et donc ça a été, mais c'est vrai qu'il y a des c'est pas toujours rose la vie de sportif de haut niveau. Ouais. Beaucoup de sacrifices à faire et au final bon, le jeu en vaut la chandelle hein, sinon on serait pas là, mais c'est vrai que quand il y a la médaille d'or au bout du chemin, bah c'est quand même mieux.
Ouais, bah c'est sûr.
Ça motive encore plus pour la suite, même si j'ai jamais perdu ma motivation dans le karaté, mais c'est vrai que les résultats ça pousse quand même.
Ouais, c'est clair. Bah, je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, dans le karatéka, ça reste un sport amateur.
Oui.
Y a des karatéka qui arrivent à en vivre aujourd'hui ?
Pas en France. Dans d'autres pays, il y en a qui sont plutôt, je dirais, un peu professionnels où ils font vraiment que ça. Mais c'est vrai qu'en France, non. Mais on espère un jour, hein, même si ce n'est pas pour notre génération, qu'on deviendra professionnel. Mais il y a beaucoup de partenariats qui se mettent en place. Moi, je sais que j'ai eu la chance de rentrer dans un dispositif Athlète SNCF. Okay. Grâce au pacte de performance qui a été mis en place par le ministère. Donc, ça met en lien les fédérations et les entreprises. Et moi, ça m'a permis d'avoir un contrat. Donc, ce qui fait que je suis libérée pour pouvoir m'entraîner et je vais travailler de temps à autre quand même quand le planning me le permet.
Ouais.
Donc, j'ai un pied dans le milieu professionnel. Ça permet d'assurer l'après-carrière aussi parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, c'est rassurant. Et ça permet d'être plus serein et d'aller à l'entraînement plus détendu en se disant, voilà, je sais que derrière, j'ai le travail et trouver un bon équilibre.
Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, là, ce partenariat du coup, avec la SNCF, tu t'as dit que c'était entre les fédérations et les entreprises.
Oui,
j'en ai jamais entendu parler.
Ouais, le pacte de performance, ça s'appelait. Là.
Ouais. Ok, d'accord. Moi, je regarderai ce que c'est. Je suis curieux de savoir un petit peu comment ça marche parce que j'en parlais rapidement avec... Avec Vincent Defrane, lui, il fait du biathlon et lui, c'était par l'armée qu'il était passé.
C'est vrai que biathlon et les sports divers sont pas mal sur les douanes.
Sur les douanes ou l'armée. Mmh. Et du coup, il avait expliqué un petit peu ce processus qui l'avait permis justement d'être à fond et de ne pas avoir un job à côté. Quoi.
Donc, oui, et pas avoir à se questionner sur le futur. Ouais.
Ouais, c'est
vrai que le temps tourne hein, au final. Donc, c'est bien de pouvoir avoir un travail à côté. Et je sais que si un jour j'arrête le karaté, j'ai la possibilité de rester à la SNCF, si tout se passe bien, bien entendu. Hein.
Ouais.
Mais voilà, au moins, je sais que j'aurai ça.
Ok, trop cool. Y a quelque chose qui me tenait à cœur d'en parler parce que chez moi, la nutrition aussi, c'est un sujet qui est hyper important. Et toi, il s'avère que tu as un souci de santé ?
Oui, effectivement, je suis diabétique de type 1.
Ouais, mais que tu domptes très bien, j'ai l'impression.
Oui, ça va, on cohabite bien, donc ça se passe bien.
Et tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que le diabète de type 1, parce que justement, il y a souvent confusion entre les différents types, et je pense que c'est bien de...
Pouvoir en parler, surtout,
exactement, et c'est le plus important.
Alors, c'est vrai, je suis diabétique de type 1, donc c'est pas parce que j'ai mangé trop de sucre, voilà. Non, je suis diabétique de type 1 parce que mon pancréas ne produit plus l'insuline, qui est nécessaire pour faire passer le sucre dans le sang. Donc en gros, c'est mon corps qui s'est mis à s'attaquer lui-même. Donc je ne produis plus de cette insuline, j'ai besoin de m'en injecter au moment des repas, dès que je mange. Il faut savoir qu'il y a des glucides présents partout, hein, que ce soit, c'est pas uniquement les choses sucrées. On va avoir du pain, il y a des glucides dedans, donc c'est vraiment trouver le juste équilibre dans ce qu'on mange et bien connaître les aliments surtout.
Ouais, parce que du coup, ce que tu évites, c'est de manger trop de sucre. Parce qu'on sait que l'insuline sert à réguler le taux de sucre dans le sang. Donc si tu n'en produis plus, il faut contrôler ce taux.
Bah, du coup, justement, je m'injecte de l'insuline en fonction du nombre de glucides que je vais manger, en fait.
D'accord.
Pour trouver ce bon équilibre et que mon taux de sucre dans le sang revienne à la normale et reste toujours dans les bons taux entre 1 et 1,20 à peu près.
Ok. Mmh. Et du coup, c'est après chaque repas, en fonction de ce que tu as mangé
Alors du coup, c'est même avant de manger. Je regarde ce que je vais manger, là je m'injecte, et je contrôle après, 2 heures après le repas, le temps que tout soit passé.
Ok, ouais. Ouais, donc c'est... C'est quand même quelque chose à surveiller.
Oui,
c'est
à surveiller. C'est, pas anodin, c'est surtout connaître les aliments parce que je peux manger des glaces, hein, bien entendu, mais bien connaître les aliments. Il y a des aliments à index glycémique élevé, ce qui fait que ça va me faire monter mon taux de sucre plus vite, surtout. Que je vais manger, du riz, ça va me faire monter mon taux de sucre assez tranquillement. Et aussi sur des cuissons, différentes cuissons, je vais manger, par exemple, si je fais cuire des pâtes et je les fais trop cuire,
ouais.
Bah, l'index glycémique va être plus élevé que si je faisais des pâtes vraiment al dente. Donc okay. C'est aussi s'informer là-dessus et bien connaître les aliments.
Ouais. Et t'as jamais essayé de te tourner vers des régimes type cétogène ou...
Non, parce que du coup, moi, ça se passe bien comme ça et c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus pour l'instant.
Ouais.
Vu que j'ai une alimentation équilibrée, je fais attention aux index glycémiques, mais sinon, je veux pas m'imposer un régime particulier par rapport au diabète, en tout cas. Voilà, je veux pas que ça devienne une contrainte non plus. Je veux quand même garder mon rythme alimentaire d'habitude, de sportif de haut niveau, en mangeant bien équilibré.
Ok, d'accord, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que le régime cétogène, c'est assez contraignant, quoi. Enfin,
Bah, puis en fait, au final, c'est aussi dans tout ce qui est régime et autres. Moi, il faut quand même que j'ai un apport en sucre lent dans ma journée pour tenir le coup. Donc, je peux pas non plus me priver tant que ça.
Ouais, tu peux pas être en cétose le jour J de la compétition.
Non, voilà.
La cétose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand. C'est le processus, dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est le processus qui fait qu'on consomme nos lipides plutôt que nos glucides. Mais du coup, qu'il y a un processus plus lent, plus long. Et du coup, c'est de l'énergie qu'il faut aller, qu'on va chercher profondément et qui n'est pas directement disponible.
Oui. Voilà. Et moi, j'ai besoin d'énergie tout de suite, on va dire.
Ouais, c'est sûr.
Mais après, ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai remarqué que le karaté, ça me fait plutôt monter ma glycémie que descendre, en fait, l'effort physique.
OK.
Parce que c'est des efforts courts et intensifs dans les 3 minutes. On va faire une technique vite, rapide, explosive. Et après, ça va y avoir un petit temps plus calme dans le combat où on sautille, on se regarde. Et donc, du coup, ça me fait plutôt monter la glycémie. Mais par exemple, je vais faire 1 heure de vélo. Il y a de grandes chances qu'au bout d'une heure, j'ai besoin de sucre, quoi, parce que je peux faire des hypoglycémies aussi.
Ouais.
Donc, ça... L'heure de vélo peut me faire baisser mon taux de sucre au fur et à mesure. Donc c'est trouver, encore une fois, le bon équilibre... tous les jours et bien surveiller son taux de sucre. Ouais.
Ok. Bah après, en plus, c'est... Comment dire ? Après, il y a beaucoup de questions de bon sens aussi, j'imagine.
Oui. Puis après, c'est aussi apprendre à se connaître. Et je pense que le sport m'a beaucoup aidé là-dedans. Hein, parce que quand on est sportif, on connaît son corps, on sait comment on réagit. Et donc moi, dès que je sens que j'ai un peu chaud, je me dis, oh, tiens, je vais vérifier mon taux de sucre. Peut-être que justement, il m'en manque un peu, il faut que je mange. Ou alors, tiens, j'ai un peu mal à la tête, peut-être que je suis trop haute. Donc, c'est des petits signes qui font qu'avant de me sentir vraiment pas bien, je sais déjà que, tiens, il faut que je mange un petit bout et après, c'est reparti tout de suite.
Ok, d'accord. Et ça t'a déjà porté préjudice dans ta carrière sportive ou...
Jusqu'à présent, je touche du bois, non. Ça ne m'a jamais posé problème dans la compétition. Je ne me suis jamais retrouvée en hypoglycémie en compétition ou en hyper.
Ouais.
Enfin, en hyper un peu, mais je me laisse une marge quand même avant de me dire, c'est trop quand même. Vu que ça me fait monter de base, je ne me dis pas, c'est pas bon. Je dis, c'est un peu haut, mais ça reste correct. Et après la compétition, tout revient à la normale. Mais sur les entraînements, j'ai déjà fait une petite hypo, mais c'est parce que le matin, j'ai mis trop d'insuline par rapport à ce que j'ai mangé. Quoi. C'est pas vraiment l'effort en soi qui m'a fait être en hypo. C'est parce que j'ai mis trop d'insuline et j'ai pas mangé assez par rapport à ce que j'ai mis.
Ok, d'accord.
Donc, faut toujours calculer.
Faut faire attention, quoi.
Oui, et puis au final, je peux manger deux fois la même chose 2 jours de suite et je vais pas réagir pareil. Donc avec la même dose d'insuline, ça peut changer avec l'humeur, avec tout le à côté qui peut avoir un petit effet là-dessus.
Ok, écoute, en tout cas merci d'avoir abordé ce sujet-là parce que j'imagine que tu vois c'est déjà c'est pas commun. Je crois que les diabètes de type 1 en plus c'est une très faible partie des diabètes, je crois que c'est 5-10%, quelque chose comme ça.
Oui, il y en a moins, mais c'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus, mais c'est vrai qu'on est moins nombreux que les types 2, mais c'est vrai qu'il faut pas se dire ça arrive qu'aux autres et il faut connaître les signes avant-coureurs. Donc si jamais vous avez soif, vous perdez du poids et vous allez beaucoup aux toilettes, il faut consulter votre médecin.
D'accord, ok. Bon, c'est bien au moins de faire passer le message et je trouve que c'est hyper bien aussi de faire passer le message que c'est possible de faire du sport à très haut niveau malgré ça. Donc, je suis vraiment content de pouvoir t'avoir invité, en tout cas.
Merci, c'est avec plaisir que j'aborde le sujet, il n'y a pas de souci.
Ok. Là, on arrive un petit peu à la fin, mais il y a des questions que j'aime bien poser à chaque fois. Et il y en a une qui est en fait un peu de savoir si tu pouvais te donner un conseil à ton toi de 15 ans, donc 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu lui dirais?
Alors à mon moi d'il y a 10-15 ans, je lui dirais d'avoir un peu plus confiance en elle. Parce que c'est vrai que même si j'étais... Enfin, je suis toujours quand même quelqu'un de réservé et timide, mais le karaté m'a permis de m'ouvrir, de grandir et de prendre confiance en moi malgré tout. Et je pense qu'à cette époque-là, j'étais encore plus réservée, donc je lui dirais d'avoir plus confiance en elle.
D'accord, ok. Mmh. C'était... Mais c'est marrant parce qu'en plus, tu avais l'air déjà de tout gagner et de...
Oui, oui, mais que ce soit du coup dans la compétition comme en dehors, voilà, que ce soit général, quoi. Donc c'est un conseil plutôt général que uniquement plutôt axé compétition. Ouais.
Ok.
Même si dans la compétition, après c'est l'insouciance de la jeunesse, hein. On y va, banzai, on se pose pas de questions. Donc c'est ce qui est bien aussi hein, quand on est jeune.
Ouais. Et à l'inverse, si tu devais donner un conseil à une jeune fille qui veut devenir championne du monde de karaté. Qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je dirais de jamais rien lâcher. Il y a des hauts et des bas. Et ce n'est pas parce qu'on ne performe pas tout de suite que plus tard, il n'y aura pas de résultat à escompter. Donc, il faut être patient et travailler dur. Et le travail paye toujours.
Ok. Bon, on retiendra la note du travail. Et là du coup, bah, on le disait tout à l'heure, peut-être tous les titres en poche. Sauf
un.
Sauf un qui arrive à grande vitesse. Mm. Comment est-ce que tu... Bon, on va le dire, du coup, c'est les Jeux qui arrivent l'année prochaine. C'est la première fois que le karaté est au jeu, je crois.
Voilà, c'est la première fois et pour l'instant, la dernière, puisqu'on est pour 2020, mais pas pour 2024. Donc, c'est vrai que ça va être un gros événement. Voilà, c'est le rêve de tout sportif en général. Et c'est vrai qu'on a la possibilité d'y avoir accès. Donc, voilà, il faut se donner les moyens maintenant pour y arriver, de se qualifier et, okay. Et d'aller à Tokyo pour, on espère, ramener une médaille d'or. Mais c'est vrai que la route est encore longue, même si, comme tu l'as dit, ça vient vite et le temps passe vite, là.
Ouais, le temps passe vite. Et du coup, c'est quoi un petit peu les prochaines étapes pour toi, là ?
Dès la rentrée, diverses compétitions internationales qui vont me rapporter des points pour ce classement qualificatif pour les JO. Donc, on aura pas mal de compétitions. Je sais qu'on va aller à Tokyo, Moscou, Madrid. Après, en janvier, il y a une compétition à Paris, Dubaï. Donc, on bouge un peu partout. Les championnats d'Europe aussi qui vont compter cette année dans le classement. Et en avril, donc, ce classement sera terminé. Donc, si on est qualifié par ce classement, tant mieux. Si on ne l'est pas et qu'il n'y a pas d'athlète, on va dire français, je parle pour les Français, du coup, dans une catégorie, il reste le tournoi de qualification olympique, donc le TQO, qui va se dérouler à Paris, à Bercy. Et donc, c'est le tournoi dernière chance, le podium, premier, deuxième et deux, troisième ou un troisième, se qualifie pour Tokyo. Donc voilà, avril et mai, on saura notre destin.
Ok, bon, on te souhaite en tout cas de marquer le maximum de points d'ici là. Mais en gros, ça représente quoi ? C'est si tu gagnes une compétition mondiale, tu...
Alors du coup, les championnats du monde...
Ouais, il y a combien de Français
déjà ? Du coup, les championnats du monde sont tous les deux ans. Nous, ils sont passés et ils comptaient dans le parcours olympique. Mais c'est vrai que les champions du monde de 2018 ne sont pas forcément les premiers sur le classement. Dans certaines catégories, oui. Après, tout bouge rapidement parce qu'une grosse compétition, donc on appelle les K1, Première Ligue, rapporte, quand on gagne, c'est après 990 points.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça peut vite bouger d'une compétition à une autre. Il suffit d'en gagner deux, donc on marque déjà pas mal de points. Donc tout peut se faire, encore actuellement.
D'accord, ok. Mm. Bon, écoute, on va suivre ça avec vraiment beaucoup d'attention et je ne manquerai pas de t'encourager pour la prochaine compétition. C'est quand la prochaine compétition, d'ailleurs ?
C'est du 2 au 9 septembre.
Ok, ouais. Génial. Y a des sportifs qui t'inspirent un peu là en ce moment et que tu suis et dont tu aimes bien le parcours ?
Oui, oui, il y a Michael Jeremias. Okay. Si ça te parle ?
Ouais, je vois très bien.
Oui.
Ouais.
Et en fait, j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'une conférence qui avait été organisée. Et j'avais pu écouter un peu son parcours. Et vraiment, c'est très inspirant. Et j'adore sa joie de vivre, son humour. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà, si jamais tu as l'occasion de pouvoir faire partager ces moments à tes auditeurs, je pense que ce serait super.
Mais je suis en train d'échanger avec Michael, donc j'espère qu'on va trouver un moment, mais ouais, j'en suis certain.
Ce serait top, parce que vraiment, c'est quelqu'un de génial.
Ok, bon bah trop cool. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité et un petit peu ton parcours où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui s'intéressent un petit peu à toi?
Alors il y a différents supports, on peut aller sur ma page Instagram où je mets mon actualité, donc Alizée Agier, ou alors sur Facebook, ma page athlète, mais aussi également sur le compte de la Fédération de Karaté. Donc pour l'équipe de France, c'est France Karaté sur Facebook, il y a un groupe et ils mettent l'actualité. Et pour tout ce qui est olympique, il y a un site internet, c'est francekarate2020.fr. Et d'accord. Là, on a l'actualité aussi de tous les athlètes et de tout ce qui se met en place, du TQO qui sera à Paris, on a des informations là-dessus. Donc voilà, pour suivre un peu tout ça, on est présent aussi sur Twitter, donc il n'y a pas de souci.
Ok, génial. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens dans la description, comme ça les auditeurs pourront te retrouver et t'envoyer des petits messages d'encouragement. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir accordé ce petit bout de temps avec toi. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite.
Bah écoute, merci de m'avoir interviewé. C'était un bon moment et voilà, c'était une belle expérience aussi pour moi.
Ok, salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors je vous encourage à aller tout de suite sur votre application de podcast et à vous abonner, ainsi qu'à aller sur iTunes ou Apple Podcast et lui mettre 5 étoiles. C'est vraiment ce qui me fait super plaisir. Je vous remercie encore une fois pour votre temps et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.